Bonjour, il est actuellement 17h, vous écoutez Un jour un débat sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui a joué un rôle essentiel dans l'accès aux droits des femmes, et plus précisément du spectacle Une farouche liberté qui raconte son parcours hors du commun. Je parle bien sûr de la grande avocate Gisèle Halimi. Pour en savoir plus, nous avons la chance d'avoir comme invitée cet après-midi une historienne.
Salut, c'est Julien.
Une économiste.
Bonjour, je m'appelle Anamika.
Et une professeure d'université.
Bonjour, je m'appelle Jade Bell.
Pour rebondir sur ce spectacle, on s'est demandé comment les études peuvent-elles permettre l'ascension sociale. Tout d'abord, bonjour Anamika, donne-nous ton point de vue.
Bonjour à tous. L'éducation en tant que levier majeur d'émancipation sociale joue un rôle crucial dans la transformation des individus et de la société. En se penchant sur le contexte économique, il est bien évidemment logique que les compétences acquises à travers l'éducation sont des outils essentiels pour le développement et la croissance d'une personne ou d'un groupe.
Je suis totalement d'accord avec ça, mais je pense surtout que les études permettent de se forger à l'avenir et qu'il n'y a pas forcément qu'un aspect économique.
Certes, mais dans ce cas, vous oubliez de reconnaître que l'école peut également perpétuer des inégalités. Les différences de moyens et les inégalités sociales influencent sur les ressources éducatives, ce qui crée des difficultés pour certaines minorités. Il y a d'abord les différences financières qui influencent sur la qualité de l'éducation. Les écoles des quartiers défavorisés peuvent manquer de ressources nécessaires, comme des infrastructures récentes et des enseignants bien formés. Ce manque de budget a un impact direct sur le développement des élèves et dès le départ, la marche est plus haute pour eux.
Je suis d'accord, mais...
S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Je disais, il y a aussi des difficultés culturelles. Certains systèmes éducatifs ne reconnaissent pas les différences culturelles de tous les élèves et peuvent marginaliser les minorités. Et c'est ces actions-là qui vont limiter les opportunités de ces groupes. Tout ça à cause de stéréotypes qui influencent ce qu'attend l'enseignant. Et cette action a pour conséquence de créer des barrières pour les élèves qui partent déjà avec des difficultés à la base.
Pour l'instant, ce que tu as dit, Anamika, c'est bien, mais je trouve que tu te focalises vraiment que sur le négatif des études. L'école, ça a quand même pour but premier d'offrir à une personne un cadre pour obtenir un nombre de connaissances et de compétences dans une variété de domaines. Ça a pour but de comprendre le monde qui nous entoure. Le but, c'est de développer des compétences, mais c'est surtout d'apprendre à sociabiliser, d'apprendre à vivre en société. Moi, je pense qu'en théorie, l'école, c'est de permettre à tout plein de personnes, quelles que soient leurs origines ou même leur statut social, un accès égal à des opportunités professionnelles. Le but, c'est surtout de réduire les inégalités sociales et de permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances de partir sur le même pied d'égalité dès le départ. C'est de prendre conscience de leurs droits et de leurs capacités et de les encourager à mettre et à remettre en question les normes et les stéréotypes liés à notre condition de départ, même si c'est surtout la condition de nos parents.
Excuse-moi Julia, je te coupe, mais je pense qu'en tant que professeur et en nous-mêmes eu à la place été des élèves, je pense que l'école, c'est pas, ça permet d'apprendre la vie, des choses théoriques de la vie, mais je pense que c'est d'abord un endroit de socialisation, d'échange. Ou moi-même, dans mon métier, j'essaie de créer un environnement où les élèves sont libres de tester tout un tas de choses et de discuter ouvertement pour créer leur petite voix intérieure et leur conscience, finalement.
Pour illustrer ce qu'on est en train de dire, je vais prendre l'exemple de Gisèle Halimi, ça peut être pas mal. On est d'accord que c'est une femme qui a toujours dû se battre pour un accès à l'école et aux études. Elle est issue d'une famille pauvre, elle a connu dès la naissance des différences de genre entre elle et ses frères. Pour vous dire, à 10 ans, tellement elle était révoltée contre la misogynie de sa mère, elle a décidé de faire une grève de la faim, surtout pour ne plus avoir à servir ses frères. Ses parents n'ont même pas compris pourquoi elle voulait aller au lycée. Elle a dû elle-même passer des concours pour avoir une bourse. Bien sûr, elle était aidée par son institutrice de l'époque, mais elle a réussi à continuer ses études jusqu'au niveau d'avant 4. On est d'accord que ça illustre surtout le « si on veut, on peut ». Et pour revenir sur ce qu'Anamika disait au début, bien sûr que certains élèves ne partent pas avec les mêmes bases, mais est-ce qu'on devrait résumer l'éducation à ça ?
Mais l'éducation se résume à ça, avec les difficultés des élèves qui ne sont pas prises en compte par certains enseignants. Les difficultés économiques et sociales, et surtout de genre, comme avec Gisèle Halimi. Je comprends votre point de vue. L'éducation est un levier pour le changement social, mais il faudrait surtout s'attaquer aux inégalités qui entravent l'accès à l'éducation pour les femmes. Pour les minorités et pour le coup, Gisèle Halimi incarne parfaitement la lutte constante pour l'égalité.
Donc, pour résumer votre débat, enfin, tout ce que vous venez de dire jusqu'ici, on est d'accord que c'est l'éducation qui permet l'émancipation. Et si on parle des femmes, c'est encore plus complexe de par leurs droits et toutes les luttes qu'elles ont faites et tous les combats qu'elles ont menés. Et si on se base sur l'exemple de Gisèle Halimi ou d'autres, nous allons juste après la pause musicale axer le combat sur l'émancipation à travers l'éducation, mais pour les femmes.
Une femme au temps de Gisèle Halimi, c'était presque considéré comme une malédiction, puisque les femmes représentaient un coup tant qu'elles étaient sous le toit de leurs parents. Par conséquent, ils cherchaient juste à la marier pour ne plus avoir à prendre en charge Gisèle Halimi. Je pense justement qu'en tant qu'économiste, être libre financièrement, c'est la base de l'indépendance pour une femme.
Et encore une fois, comment crois-tu qu'une femme peut être libre financièrement ? Il faut bien avoir un métier pour ça, et pour ça, il faut avoir fait des études, pour avoir un minimum de conditions sociales, pour être... encore une fois, un minimum libre. Alors bien sûr, il y a des métiers de base qui ne nécessitent pas forcément d'avoir acquis des connaissances lors d'études, comme caissière ou femme de ménage. Mais ça reste des métiers qui sont souvent mal payés et plus difficiles. Alors oui, être libre financièrement, c'est la base de l'indépendance, mais c'est à quel prix ?
Je vois parfaitement ce que vous voulez dire, toutes les deux, et pour nous permettre d'encore mieux illustrer vos propos, j'ai pris l'initiative d'inviter Jade, donc un professeur d'université qui va témoigner de l'histoire d'une de ses élèves.
Bonjour, je me représente rapidement, je m'appelle Jade Bell, j'ai 34 ans, et je suis professeure de neuropsychologie à la faculté de Paris depuis maintenant 9 ans. J'aime beaucoup ce métier, enseigner, le fait de transmettre mes connaissances finalement et apporter à des élèves qui ont envie d'apprendre et d'approfondir davantage leur analyse avant tout pour les aider à réussir. J'ai l'impression en fait d'aider concrètement à la société en formant ces futurs citoyens qui sont prêts à se lancer dans la vie professionnelle. Ces élèves auront finalement tous assisté à mes cours, mais je suis persuadée finiront avec des parcours et des trajectoires totalement différents. Mon but à moi en tant que professeur, c'est dans ma carrière, enfin c'est dans, ayant moi-même été à leur place, c'est j'essaye de les faire progresser chacun à leur niveau puisqu'ils arrivent en début d'année, avec un niveau différent. J'essaie de les pousser au maximum de leurs capacités. J'espère que plus tard, ils garderont un bon souvenir de mes cours, comme moi j'ai eu d'ailleurs avec mes professeurs et mes cours à la faculté. J'ai vraiment adoré mes cours à la faculté, parce que ça se voyait que les profs étaient très passionnés par leur sujet, c'est sûr. Et après, j'ai toujours aimé l'école en général, apprendre, parce que je lisais beaucoup toutes sortes de livres. Vraiment, je me revois dans mon enfance, je lisais énormément de livres de bibliothèque, il fallait que je nourrisse mon imaginaire de toutes sortes d'histoires, d'aventures. C'était comme un besoin pour moi. Mais j'aimais beaucoup raconter également des histoires, la narration en fait. Mais donc j'ai publié un livre à 23 ans sur le sujet. J'en ai écrit quelques autres que je préfère garder pour moi, parce que ça prend du temps de publier des livres. J'ai développé véritablement ce goût pour lire finalement et me cultiver par moi-même. Mes parents n'avaient pas vraiment le temps pour ce genre de choses parce qu'on vivait en Bretagne pendant toute mon enfance et mes parents tenaient un commerce. Je les aidais souvent le week-end et après l'école, mais mes parents ne m'aidaient pas spécialement scolairement. Mais j'ai toujours su réussir, la preuve, j'étais une des meilleures de ma classe. Mais plus tard, évidemment, ça posait la question de mes études. Donc j'étais persuadée que je voulais faire des études, je ne voulais pas faire ce métier plus tard, enfin reprendre le commerce de mes parents. Donc je suis partie pour Paris, j'ai pris un travail à côté, pour mon argent de poche, j'ai pu payer mon loyer. Mais à part ça, ce moment de ma vie était vraiment très excitant, ça m'a permis de découvrir Paris toute seule, j'étais autonome, finalement c'était un peu comme une vie d'adulte. À part cela, dans mes cours, c'était assez mixte, même si je pense qu'il y avait plus de garçons. C'était pas intimidant, mais par rapport au niveau des professeurs, ils pouvaient peut-être parfois plus exigeants avec les garçons. Mais ça m'a pas empêché de travailler comme eux, mais je pense que ce que les profs aimaient bien, c'est qu'ils avaient surtout confiance en eux. Mais sinon, après avoir été diplômée, j'ai trouvé quelques stages facilement, et un jour, je parlais avec un ami qui voulait passer le CAPES pour devenir professeur. Puis il a réussi à me convaincre et je le passe. Et à ma grande surprise, je le réussis. Et j'ai commencé à enseigner au collège, puis au lycée et finalement à la faculté. Et finalement, bah, avec du recul, je ne me regrette pas du tout de mes choix. Mes parents sont très fiers de moi. Ils ont toujours leur commerce. Je les aide du mieux que je peux financièrement. Et sinon, les études, pour moi, ça permet de construire seule ma propre vie. Et j'ai toujours été confiante parce que j'ai vu que le travail a payé. Et sinon, j'espère que ça donnera la force à certains de rester confiants s'il faut, parce qu'on n'a pas toute la chance, évidemment, de grandir dans ce genre de milieu. Il faut partir, s'émanciper, faire des choix importants qu'on regrettera plus tard, sinon, parce que les études, c'est qu'une fois. Et ça peut vraiment changer la trajectoire du vie d'une personne. Merci.
Merci beaucoup, Jade, pour ce témoignage poignant. Il illustre parfaitement l'importance de la scolarisation dans l'émancipation et les opportunités qu'elles offrent pour surmonter les défis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Raconte-moi, il est 15h40.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Novembre 1974, un pas en avant pour les femmes et pour la France. Simone Veil, avortement, assemblée. Ils vous font peut-être écho. Il se déroule à cette période un débat tumultueux à l'Assemblée nationale, avec pour but l'adoption de la loi Veil sur l'IVG. En cette fin d'après-midi, nous avons le plaisir de recevoir nos chroniqueurs qui nous feront faire un véritable bond dans le temps. Pour certains, des souvenirs referont surface, pour d'autres, peut-être une totale découverte.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Donc maintenant, il est temps d'accueillir nos chroniqueurs. Bonjour, bienvenue Cléo. Alors déjà, Simone Veil, c'est bien pour débuter. Qui est-elle? Quel a été son parcours?
Alors Simone est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive, dans un milieu quand même assez intellectuel. Mais son enfance a été brutalement interrompue par la montée du nazisme en France. Elle est alors déportée avec sa mère et sa sœur Madeleine en mars 1944 et internée au camp d'Auschwitz. Elle va y survivre mais a perdu une partie de sa famille dans les camps.
Mais alors comment Simone Veil a pu se reconstruire après cette expérience inhumaine?
Eh bien cette période traumatisante lui a permis de forger sa détermination à lutter contre l'injustice et surtout défendre les droits fondamentaux. Pour cela, elle se lance dans des études de droit à l'Université de Paris et réussira le concours de la magistrature en 1956. Mais c'est vraiment vers la fin des années 60 qu'elle commence à s'intéresser à la politique, en affirmant par exemple son soutien aux jeunes de mai 68. Et finalement, en mai 74, elle accepte le poste de ministre de la Santé et devient ainsi la première femme à occuper cette fonction. Elle fait alors une proposition de loi pour dépénaliser l'IVG et comme ça pouvoir offrir aux femmes le droit de choisir et de disposer de leur corps. Mais sa carrière politique ne s'arrête pas là, puisqu'elle deviendra en 1979 la première femme à présider le Parlement européen, après y avoir siégé en tant que députée française. Elle intégrera en 1998 le Conseil constitutionnel et se retirera peu à peu de la vie publique vers fin 2010.
Quelles sont les reconnaissances qu'elle obtient de la France ?
Bien après son décès le 30 juin 2017, à l'âge de 89 ans, elle devient en juillet 2018 la cinquième femme à entrer au Panthéon. C'est donc un hommage en reconnaissance de son rôle dans la vie politique et de sa contribution aux droits des femmes.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Ok, donc maintenant Alexandre, alors toi tu nous emmènes vers un contexte historique à cette période. Que peux-tu nous en dire ?
Le droit pour l'IVG a été une longue et lente conquête, qui commence en 1967 avec la loi de Neuwirth, autorisant la pilule contraceptive, qui ouvre lentement la voie à une évolution de la législation. Dans les années 70, les mouvements féministes et les plannings familiaux réclament le droit d'avorter, estimant qu'il s'agit d'un droit essentiel à disposer de son corps.
Et je crois que c'est aux jeunes filles et aux jeunes femmes de décider si elles doivent avorter ou non, ou si elles ont le droit de garder leur enfant, si elles désirent profondément.
Comme vous le savez, l'accès à la contraception étant insuffisante, de nombreux IVG se déroulent clandestinement, dans des conditions dangereuses.
Et du coup, est-ce que tu sais comment la population, elle se situe face à ce débat? Enfin, plutôt, comment elle y participe?
Eh bien, la population y participe grâce au manifeste des 343 femmes avant avoir avorté, déjà paru en 1971 dans le journal Le Nouvel Observateur. Puis un an plus tard, avec le procès de Bobigny en 1972, qui sensibilisera encore plus l'opinion publique, grâce à l'avocate Gisèle Halimi, qui défend avec succès une mineure ayant avorté après un viol. Fraîchement arrivée au pouvoir, Valérie Giscard d'Estaing confie une réforme sur l'avortement à sa ministre de la Santé, Simone Veil, qui défend le texte avec brio à l'Assemblée, puis au Sénat, dans deux discours qui deviendront historiques.
Merci beaucoup Alexandre, et maintenant laissons place à la pause musicale.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Les basses qui tapent, ASIC s'argent des presque gros. Ils font de la trappe, pas dans la trappe. Bientôt je parie sur des courses de drone. T'as mis le nez là où il fallait pas. Cœur troué comme les choses que je rock. Et KLNJ dans les favelas. Tous les frères sont chauds, on attend que ça pop. J'les beat comme un GPT-3. On trouve full stuff sur l'avatar. Je garde contrôle comme le Web3. Et moi quand je mets un bâtard. Son avait Chris fait le repérage. Comme une fenêtre pour se faufiler. Les roses d'ici n'ont pas de pétales. T'attraper, te faire sautiller. Là je trouve plus ça drôle. C'est la livraison 2024 Tesla Model S N-Wender combinaison. Loin l'époque où je trouvais l'Ernest. C'est mieux si tu touches pas la meute. Les gros tranchants ceux d'un morin. Je les vois agir, peux pas rester neutre. Tranquer un truc sous la main. J'ai pris mon sac. Je mets les peurs à l'intérieur. Et je monte le casque. Je cherche une mélo qui pleure. J'ai ce que ça vaut. Les mon frérot, les belles paroles. Je deviens accro. Je trouve plus ça drôle, plus ça. Entre nous y'a qu'un modem. S'il passe trop près, je vais grave la gros.
On vient d'écouter Youngpour. Maintenant laissons place à Eva. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est donc le cœur de ce sujet?
Alors, il est 3h40 passé, le 29 novembre 1974, lorsque la loi pour la légalisation de l'avortement, qui restera comme la loi Veil, est adoptée. Un débat de quelques 25 heures, de débat houleux, parfois virulent, dans une France divisée sur la question, les arguments se font face. Peur, pour ou contre, conservateurs ou progressistes, droite face à la gauche, une droite elle-même partagée. 66 députés de droite sont prêts à voter pour, mais les 152 autres sont fermement opposés.
Contraire à la mission la plus naturelle et la plus indispensable de la femme, qui est une fonction de donner la vie et non pas de donner la mort.
Jean Foyer, ancien ministre de la Justice de Gaulle, qui fut d'ailleurs le supérieur de Simone Veil lorsqu'elle était jeune magistrate. Michel Debré, figure emblématique de la France conservatrice, nationaliste et nataliste, pilonne aussi la loi Veil dans un réquisitoire.
Ce n'est pas au moment où la compétition internationale fait rage et n'épargne pas l'Europe occidentale qu'il faut affaiblir la nation française. Or, la baisse depuis 5 ans de notre natalité nous laisse présager, si nous ne réagissons pas, la même dégradation profonde dont la France a tant souffert, que dis-je, dont elle a failli périr.
Les premiers projets de loi concernant l'IVG ont été portés par des ministres de la droite et du centre, sous Georges Pompidou et Valérie Giscard d'Estaing. Toutefois, la loi Veil n'aurait jamais pu être promulguée sans la gauche, qui a apporté la majorité des voix pour son adoption à l'Assemblée. L'avortement divise l'opinion française, qui est pourtant favorable à la légalisation selon les sondages de l'époque. Mais les opposants diabolisent le débat et affichent leur peur et opposition. L'électorat chrétien, fermement opposé à cette loi au nom de la conception sacrée de la vie, exerce une pression aussi sur les députés de droite. Des groupes de croyants iront jusque devant les portes de l'Assemblée nationale pour se lamenter dans des prières.
Également, toujours à Paris cet après-midi, de 6 à 10 000 personnes qui se sont rassemblées devant le Palais Bourbon pour protester contre la loi sur l'avortement. L'avortement est un génocide, un assassinat, pouvait-on lire sur certaines pancartes.
Durant trois longs jours de débat, on a pu entendre jusqu'à quelques 74 orateurs portant des discours sensés, mais avec aussi beaucoup d'ineptie. Certains n'hésiteront pas à outrager personnellement Madame Veil. Michel Debré parle d'une monstrueuse erreur historique. Alexandre Bolo fait ensuite référence à l'instauration d'un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale, rapporte Libération. Et le pire reste à venir, la rescapée d'Auschwitz doit écouter Jean-Marie Daillet parler d'embryons jetés au four crématoire. Jacques Médecin évoquait une barbarie organisée et couverte par la loi, comme elle le fut par les nazis. Impassible, Simone Veil est touchée, mais ne laisse rien paraître et poursuit son combat. Elle reprend la parole et déplore ses analogies sur le nazisme. Dans la nuit du 29 novembre 1974, l'Assemblée nationale adopta finalement le texte en première lecture avec 284 voix, et pour 189 contre. Le projet de loi devait encore également être examiné au Sénat. Le 13 décembre 1974, la ministre de la Santé alla de nouveau défendre son texte, cette fois devant la tribune, dénonçant l'iniquité et l'inefficacité de la législation française et insistant sur l'existence d'une inégalité sociale des femmes face à une grossesse non désirée. Le 20 décembre 1974, la loi pour la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse est votée au Sénat et est définitivement adoptée. Elle dépénalise partiellement l'interruption de grossesse volontaire à certaines conditions. La loi fut définitivement promulguée le 17 janvier 1975, mais seulement à titre expérimental durant 5 ans. Mais elle sera toutefois reconduite sans limite de temps le 31 décembre 1979.
Merci beaucoup Eva, c'était très touchant. Ainsi, la France rejoint un monde qui apprend à considérer de plus en plus les droits des femmes. Au début du XXe siècle, de nombreux pays avaient déjà commencé à légaliser l'avortement, même si toutefois leurs avancées ont très souvent bien régressé en un simple changement de politique. Il ne faut pas oublier qu'un droit n'est jamais entièrement acquis et qu'il peut toujours nous être retiré. Merci beaucoup, merci à tous pour ce bel enrichissement. C'était un plaisir d'animer cette radio avec vous et surtout, merci de nous avoir écoutés. C'était Raconte-moi.
Bonjour à tous, il est 15h15 sur Radio Campus Paris. Le saviez-vous, l'IVG a été légalisée le 17 janvier 1975. On en parle aujourd'hui. À propos d'avortement, une pièce de théâtre s'est récemment jouée à l'avant-scène sur une grande femme qui a beaucoup contribué. Je veux bien sûr parler de Gisèle Halimi. Nous allons accueillir une jeune lycéenne de 16 ans qui est allée voir la pièce avec sa classe dans le magnifique département des Hauts-de-Seine. Puis nous écouterons différents micro-trottoirs enregistrés aux abords du lycée Albert Camus, toujours dans le 92.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous accueillons Lucie, jeune lycéenne, qui est allée voir la pièce sur Gisèle Halimi. Et c'est notre journaliste Léna qui va lui poser des questions sur son ressenti. Bonjour Léna.
Bonjour à tous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors je me trouve aujourd'hui en présence de Lucie, jeune adolescente de 16 ans, ayant été spectatrice de la pièce Gisèle Halimi, une farouche liberté. Lucie, quand et dans quel cadre as-tu été voir la pièce ?
Alors, j'y suis allée le 12 décembre dernier et c'était avec ma classe, donc avec mes professeurs et en spécialité d'AGGSP.
Très bien. Donc on dit que Gisèle Halimi était une héroïne féministe des années 70. Elle a donc plus impacté les générations précédentes, les baby boomers. T'étais familière avec Gisèle Halimi ? Enfin, tu la connaissais avant d'être allée voir la pièce ?
Pas du tout. Je connaissais pas du tout cette femme. Et justement, ça m'a permis d'en apprendre plus sur elle, donc ce qu'elle a fait, son parcours, et surtout sur les combats qu'elle a menés.
Très bien, et en globalité, t'as pensé quoi de la pièce ?
Alors, moi j'ai beaucoup aimé la pièce, surtout la mise en scène et le jeu des actrices, parce que ce qui fait un peu la particularité de cette pièce, c'est qu'on a juste deux actrices sur scène, Donc il y a une première actrice qui va plutôt interpréter la première partie de sa vie, donc tout ce qui est son début de carrière. Et la seconde, plutôt la fin. Donc on a un dialogue entre les deux femmes. Et justement, ce qui est bien, c'est que les deux femmes interagissent ensemble pendant toute la pièce. Et ça crée quelque chose d'assez vivant.
Très bien. Donc la pièce, elle était exclusivement basée sur un dialogue entre les deux comédiennes. Dit comme ça, on aurait presque tendance à penser que ça manquait de dynamisme. Est-ce que c'était le cas ?
Justement, au début, j'avais un peu peur, pas de m'ennuyer, mais de trouver ça assez, assez long. Mais pas du tout, parce qu'il y a vraiment une connexion entre les deux femmes et ce qu'elles disent, ce qu'elles vont dire pendant la pièce a vraiment du sens parce qu'elles réagissent. Par exemple, s'il y en a une qui va commencer à raconter un événement, l'autre va faire un retour sur cet événement-là. Donc, pas du tout.
Et donc, le fait qu'elles soient deux sur scène, comment les metteurs en scène et metteuses en scène se sont organisés pour le décor ?
Alors, personnellement, avant d'y aller, je pensais que le décor allait être assez extravagant, mais pas du tout. Enfin, j'ai trouvé super neutre. Et en vrai, c'est ce qui fait un peu sa particularité, parce qu'on a un espèce de panneau en bois qui va venir combler le fond de la scène. Et sur ce panneau en bois, on a des projections, donc plutôt des décors marins. Donc on avait, par exemple, des images de la mer. Et on a aussi les chapitres, parce que c'est tiré d'un livre à la base, cette pièce. Et donc on a les différents chapitres, donc chapitre 1, chapitre 2, ce qui permet de suivre vraiment chronologiquement la pièce. Et on a aussi les actrices qui vont venir interagir avec le panneau en bois, parce qu'on a des espèces de casiers où les deux femmes vont venir, par exemple, chercher des objets. Donc on avait une robe d'avocate qu'elles utilisaient pour illustrer leurs propos.
Très bien. Est-ce que tu dirais que cette pièce, elle t'a fait ouvrir les yeux sur des choses dans la vie de tous les jours ? Est-ce que t'as appris aussi des choses sur Gisèle Halimi ?
Justement, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et en fait, avant d'y aller, je pensais vraiment que c'était juste une avocate lambda. Mais en fait, c'est vraiment une femme qui s'est battue toute sa vie, et surtout pour des causes féministes. Et elle a fait plusieurs combats, notamment pour la criminalisation du viol, donc plusieurs procès. Et aussi pour le droit à l'avortement. Donc, elle a vraiment eu un parcours super complet. Et aussi, on découvre son côté maternel, parce qu'on apprend qu'elle a des enfants. Donc, c'est vraiment une femme qui a su allier travail et vie privée.
Eh bien, merci beaucoup pour ton intervention, Lucie.
Merci à vous.
Merci à notre jeune témoin. C'est maintenant au tour de nos journalistes Raphaëlla et Adèle de nous faire écouter leur micro-trottoir fait il y a quelques jours à Albert Camus.
Bonjour. En effet, on a interrogé quelques lycéennes il y a quelques jours.
Et on va pouvoir écouter leur témoignage tout de suite.
Est-ce que vous trouvez qu'en France, on est suffisamment informé sur le droit à l'avortement ?
Alors je trouve que non, pas du tout, absolument pas.
Non. On n'en sait pas assez.
Ça reste assez vague, genre on ne sait pas trop comment ça se passe, si c'est dangereux ou quoi. Du coup, je pense qu'on pourrait plus développer.
Il manque d'interventions pour expliquer quelles mesures sont mises en place pour pouvoir accéder à ce droit.
Voilà. Moi, je trouve qu'en France, il n'y a pas du tout de sensibilisation par rapport à ça et c'est très dommage.
Il y en a. Comparé à d'autres pays, il y en a, mais pas assez.
C'est vrai qu'on ne nous en parle pas et par exemple, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on pourrait avorter.
Si demain on veut avorter, on ne sait pas trop où aller, à qui demander, etc.
C'est pas un tabou en France. Et améliorer ça. D'accord. Et faire des campagnes de sensibilisation, par exemple, dans les établissements scolaires, je pense.
Merci. On vous lancera la chronique de Sophia après la pause musicale. One city, one country, one state. Some place to be nobody. Some place to be. Some place you wouldn't know, probably. Yeah. Yeah. If Chappelle moved to Ghana to find his peace, then I'm rolling where the service always roaming. I'm packing my bags and going. It's a challenging act. It's a balancing act. Visit beautiful places. It's more out here than the trap. Houses in Long Island, they always found him. House in the South, a nigga barely got out. Sunny LA, remember calls with Dr. Dre. He told me, don't let the palm trees fool you, nigga, be safe. Me and my higher self, we often would speak. Somehow we lost the connection, might meet a Joshua tree. And it's been bothering me. Too many wavy women, gotta log out of IG.
can't be my age DMing. No kidding, it's hard to move like a civilian. I write the truth cause I live it, not like you musical niggas. We did it big and they biggest. They rather shoot than write tickets. What it feel like to go get it, what it feel like to go miss it.
Merci, c'était Nobody de Laurie Hill. J'espère que vous avez aimé. On va faire un petit retour sur le micro-trottoir.
On peut remarquer qu'il y a des réponses récurrentes qui reviennent plusieurs fois, des avis qui sont pas très mitigés, enfin qui sont tous les mêmes.
Il y a beaucoup de demandes, notamment de plus d'interventions sur le sujet, notamment quand on sait que pratiquement 30% des femmes de 20 à 25 ans auront recours à l'avortement. Donc ça peut être très intéressant d'avertir les jeunes femmes sur ce qui pourrait leur arriver plus tard.
Merci Raphaëlla et Adèle. On va maintenant terminer par la chronique de notre experte Sophia. Bonjour Sophia.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Plus tôt dans cette émission, vous avez entendu parler de Gisèle Halimi, de son combat pour l'avortement et la reconnaissance des droits des femmes. Mais où en sont aujourd'hui ces causes si courageusement défendues par Gisèle Halimi à son époque ? En France, le droit à avorter et pratiquer l'avortement est garanti par la loi et permet aux femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse de le faire sans risque d'être sanctionnées depuis la mise en place de la loi Veil le 17 janvier 1975. Cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps est le résultat du combat de femmes comme Gisèle Halimi et tant d'autres. Mais aujourd'hui, cette liberté qui nous semble acquise et légitime est menacée partout dans le monde. Vous savez sûrement qu'aux États-Unis, le pays modèle de démocratie, liberté et d'égalité, depuis le 24 juin 2022, la Cour suprême a supprimé un arrêt fédéral qui garantissait depuis 1973 le droit d'avorter sur tout le territoire. Depuis, chaque État est libre de déterminer sa propre politique sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Cette triste décision a permis à une dizaine d'États conservateurs d'interdire l'avortement. Sont notamment concernés le Texas, la Louisiane ou encore le Mississippi, qui ne prévoient aucune exception même en cas de viol ou inceste. En France, cette décision américaine a créé de nombreux débats. Comment ce droit si fondamental a-t-il pu être retiré à des citoyennes si facilement dans un pays comme les États-Unis ? Cela pourrait-il arriver en France ? Toute la remise en cause de ce droit si important pour toutes les femmes aujourd'hui a mené un projet de loi constitutionnelle en France relatif à la liberté de recourir à l'avortement. Il a été présenté par le gouvernement au Conseil des ministres en 2023. Il est débattu depuis le 24 janvier 2024 à l'Assemblée nationale. Selon moi, l'inscription du droit à l'avortement est nécessaire en France. Ce droit si fragile et pourtant si important doit être mieux protégé. Et en intégrant cet article à la Constitution, le droit à l'avortement sera renforcé et mieux défendu contre toute personne, contre cette liberté si importante pour toutes les femmes.
Mais alors, comment sensibiliser les jeunes ?
Eh bien, le fait que des jeunes aillent voir la pièce sur Gisèle Halimi donne de la lumière à ces combats, qui peuvent être méconnus des plus jeunes, car comme Adèle et Raphaëlla nous ont montré avec leur micro-trottoir, c'est un sujet qui reste tabou. Voir cette pièce permet aux jeunes et aux moins jeunes d'avoir une plus grande connaissance sur l'avortement et de ce qu'il représente aujourd'hui dans notre société.
Merci Sophia pour cette très intéressante chronique. C'est la fin de notre splendide émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et merci à Inès en régie. Bonne fin d'après-midi sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, ici Radio Campus Paris, il est 17h30 et aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important. Vous êtes avec Jaina et le sujet du jour est la place du viol et des agressions sexuelles dans la justice.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Et avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous avertir que les discussions que nous allons avoir aujourd'hui peuvent aborder des sujets sensibles. C'est un sujet qui peut toucher de près ou de loin chacun d'entre nous, donc si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas, ce n'est pas grave si vous n'écoutez pas. Le principal, c'est que vous vous sentez bien.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Passons maintenant à notre première partie. J'aimerais vous présenter notre première invitée, une spécialiste du sujet qui va nous éclairer sur la place du viol et des agressions sexuelles dans l'actualité aujourd'hui. Bienvenue Juliette.
Merci Jaina, bonjour à tous. L'affaire Depardieu a rendu plus visibles tous les malfonctionnements sociaux et juridiques de notre société. Le complément d'enquête sur l'acteur sorti le 7 décembre 2023 montre Gérard Depardieu ayant de multiples propos misogynes et insultants à l'égard des femmes. Il sexualise aussi une jeune fille qui fait du cheval. On précise que les propos ont été authentifiés par un huissier de justice. Ce complément d'enquête a suscité de nombreuses réactions et un débat politique. Gérard Depardieu est également accusé de viol et d'agression sexuelle. On peut voir que malgré de nombreux témoignages, preuves, Depardieu a été mis en examen mais pas encore jugé par la justice. Les victimes ne sont pas crues et leurs témoignages sont minimisés. Ils ne font pas office de preuve. Certaines personnes excusent son comportement parce que c'est une star et que ce serait son personnage de bon vivant. Son comportement est donc banalisé. Plusieurs personnalités publiques, une cinquantaine environ, qui ont donc une forte influence sur la population, ont d'ailleurs signé une tribune pour soutenir Depardieu, tribune qui a fait scandale. Une contre-tribune a été réalisée en réponse. 600 artistes ont répondu à l'appel de cette contre-tribune. Et elle a atteint les 8000 signatures en 48 heures. Depardieu n'a pas encore été jugé par la justice, comme de milliers d'autres agresseurs, comme nous allons le voir aujourd'hui.
Merci Juliette. Maintenant, changeons un peu de perspective. Dorialine va nous parler des dates importantes qui ont marqué l'histoire et de la juridiction et de la législation des agressions sexuelles. Alors dites-nous, comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui ?
Bonjour Jaina et merci, bonjour à tous. Alors en France, le viol est interdit dans la loi depuis 1810, mais le harcèlement sexuel n'est pas sanctionné par la justice. Même si le viol était un crime, les affaires n'étaient pas envoyées devant la cour d'assises. La nature criminelle des faits était niée.
Et il me semble qu'en 1980, c'est une année marquante pour ça, non ?
Oui, très exactement. En 1980, grâce en partie à Gisèle Halimi, et à l'affaire Tonglet-Castellano, aussi appelée le procès du viol, la loi définit pour la première fois le terme de viol. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Par pénétration, on entend vaginale, buccale ou anale, et réalisé par une partie du corps ou un objet. Une fellation, par exemple, est un viol. Il est d'ailleurs condamné de 10 ans de prison. Malgré tout, il y a eu une diminution de la peine puisqu'il était puni de la perpétuité avant 1980.
Et qu'en est-il des agressions sexuelles ?
Eh bien, pour les agressions sexuelles, c'est-à-dire contact physique à connotation sexuelle non consentie, qui étaient autrefois considérés comme de simples attentats à la pudeur, ils sont maintenant considérés comme des délits devant la loi. Sans facteur grave, elles sont punies de 5 ans de prison, assorties de 75 000 euros d'amende. Si elles sont faites sous la menace ou via l'abus de pouvoir, la peine est de 7 ans et de 100 000 euros d'amende. En cas d'agression sexuelle sur mineur, c'est 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Et est-ce que quand même la définition légale a évolué depuis ?
Oui. Alors, en 1992, les menaces sont ajoutées à la définition du viol, comme moyen de pression que l'agresseur utilise pour commettre son crime. La peine du viol est rallongée de 5 ans, mais il faut tout de même garder en tête que selon la loi, en cas de circonstances aggravantes, comme le viol sur mineur, le viol conjugal ou incestueux, le nombre de victimes ou en raison de l'orientation sexuelle de la victime, on peut alourdir la peine à 20 ans. Si le viol a provoqué la mort de la victime, la peine est de 30 ans, et s'il y a eu des actes de torture ou de barbarie, avant, pendant ou après, c'est la réclusion criminelle à perpétuité.
Maintenant, une petite pause musicale.
Thank you. Passons maintenant à notre troisième invité, Elio. Pouvons-nous maintenant nous pencher sur les chiffres? Et pourquoi aujourd'hui moins de 1% des viols sont condamnés?
Bonjour Jaina. Alors, il faut savoir que les chiffres d'aujourd'hui concernant les condamnations de ce genre d'actes sont alarmants. La dernière enquête de victimisation de l'INSEE révèle que seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020, un chiffre moindre, contrairement à ce que l'imaginaire collectif aurait tendance à penser. Ce faible pourcentage peut malheureusement s'expliquer par de nombreux facteurs, comme la peur de porter plainte, le manque de preuves, etc. Moins de 10% des victimes de violences sexuelles et sexistes déposeraient plainte. Concernant les viols pour lesquels une plainte a été enregistrée par la police, le ministère de la Justice indique que seuls 14,7% ont donné lieu à une peine. Depuis une dizaine d'années, le nombre de condamnations pour viol est en baisse, notamment entre 2019 et 2020, période qui enregistre une baisse de 31%. Cela peut s'expliquer, selon le ministère de la Justice, par un manque de moyens pour enquêter, mais aussi à l'allongement du délai de prescription à 20 ans des viols et agressions sexuelles sur mineurs en 2004, ce qui a pu permettre à ces victimes de porter plainte.
Et excuse-moi, qu'est-ce qu'un délai de prescription ?
Ah, bien sûr. Un délai de prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou bien pénale, n'est plus recevable. On a donc chaque année près de 20 000 personnes qui sont mises en cause pour des violences sexuelles commises hors de la famille. Rappelons que dans 90% des cas de viol, la victime connaît son agresseur. Chaque année en France, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol. Malgré l'attention croissante portée aux crimes sexuels, le nombre d'agressions continue d'augmenter. Chaque année, on a 20 000 personnes qui sont mises en cause pour des violences sexuelles commises hors de la famille, dont 43% pour viol ou tentatives de viol. Il s'agit presque exclusivement d'hommes, 98% des cas, souvent très jeunes. En 2019, les parquets ont été saisis pour 56 000 affaires de violences sexuelles, sans qu'il soit possible d'isoler celles ne relevant pas de la sphère familiale. Dans la plupart des cas, un auteur est identifié. 61% des auteurs traités ont été considérés non poursuivables pour infractions insuffisamment caractérisées ou défaut d'élucidation. Lorsque l'auteur est poursuivable, soit dans 39% des cas, il fait l'objet d'une réponse pénale dans 90% de ceux-ci. Cette réponse prend plus souvent la forme de poursuite quand l'auteur est majeur. Tous ces chiffres nous montrent bien que de nombreux progrès sont encore à faire.
Des chiffres hallucinants qui parlent d'eux-mêmes. Merci Elio. Et maintenant, Juliette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la culture du viol? Qu'est-ce que c'est?
Oui, bien sûr. Alors la culture du viol, c'est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble d'attitudes et de comportements partagé au sein d'une société donnée qui minimise, normalise, voire encourage le viol. On peut la retrouver partout, dans les films, la musique et j'en passe. Avec l'exemple de Depardieu donné au début de cette émission, on a pu voir que certains comportements sont banalisés sous prétexte que ces personnes sont célèbres ou que c'est seulement pour rigoler, entre guillemets. Mais ces personnes ayant de l'influence, ces comportements s'étendent à la population tout entière. Cela donne donc lieu à la culture du viol. Elle se perpétue et se propage. C'est pour cela que de nombreuses personnes se battent et se révoltent contre cette normalisation. Ainsi, au niveau juridique, peu d'agressions sont condamnées et peu de femmes osent porter plainte par peur qu'on leur dise qu'elles exagèrent et que leurs témoignages soient minimisés.
Oui, et ce sont toutes ces raisons qui enrichissent malheureusement cette banalisation. La honte qui est trop souvent du côté des victimes, la contestation de leurs paroles, et même si porter plainte n'est pas obligatoire, je le précise, car il faut arrêter cette injonction qui s'impose aux victimes. Nous savons aussi que les procès pour diffamation vont souvent beaucoup plus loin que les procès pour viol, ou en tout cas dans l'imaginaire collectif. La représentation des agressions sexuelles dans le monde de la musique et de la pop culture?
Oui, tout à fait. J'aimerais revenir sur ce sujet. C'est vrai que dans tous les films et séries, on pense tous à un film donc, qui montre ce genre d'image et qui romantise en quelque sorte le viol. On peut parler de The Idol ou de la série Euphoria qui ont été beaucoup critiquées par rapport à ce sujet-là.
C'est exact, il y a aussi le film 365 jours qui est très vu, qui est très apprécié. Il y a même les livres qui ont été mais adorés par beaucoup de lecteurs et qui banalisent le viol et qui en font même à certains moments l'apologie.
Oui, et toutes ces représentations jouent aussi un rôle primordial dans l'image qu'on a des agressions sexuelles, ou en tout cas l'image collective qu'on en fait. Et comme Juliette l'a dit plus tôt, dans la banalisation du viol. Et puis, il est important aussi de souligner que non, les femmes ne font pas ça pour l'argent.
Bien évidemment.
Et que bien au contraire, ces parcours, au-delà de tout l'aspect psychologique, a aussi un coût financier, rien qu'avec les frais d'avocat, par exemple. Tout cela contribue à ces chiffres alarmants qu'Elio nous a présentés. Pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je finirai sur une note un peu plus positive, parce que maintenant ce sujet prend de plus en plus de visibilité, ce qui est génial. Vous ne m'avez pas trop rassurée avec tout ça, et pourtant il y a des signes de progrès, non ?
Oui, c'est vrai qu'on peut constater quelques signes de progrès, par exemple avec les mouvements comme le hashtag MeToo.
Oui. Exactement, c'est exactement à quoi je pense, avec par exemple aussi une évolution des mentalités, notamment chez les jeunes. Et même si on a un peu de retard en France, on peut le voir par exemple avec un exemple actuel de Gérard Depardieu et les signatures qui ont été évoquées plus tôt. On remarque que l'opinion publique a changé sur ce sujet et qu'aujourd'hui en France, le président ne peut plus tenir de tels propos sans des millions de réactions. Le soutien de Macron auprès de Gérard Depardieu a été largement critiqué et la population et l'opinion publique ont réagi. Je pense que nous devrions pas perdre espoir, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, on espère toujours que la situation va s'améliorer pour tout le monde et pour les victimes.
C'est exact, et aussi que les lois s'améliorent, parce que c'est tout ce que j'ai pu dire, c'est ce qui est écrit légalement, c'est pas forcément ce qui est appliqué comme Elio a pu nous le rappeler.
Et c'est pour ça qu'il faut continuer à sensibiliser, informer et soutenir les victimes. Vous retrouverez d'ailleurs des numéros d'assistance et des informations sur la page de l'émission. Parce qu'en réalité, c'est que dans ces situations, il n'y a pas de réponse toute faite et la plupart du temps, les victimes ne savent pas réellement quoi faire. Et en conclusion, les raisons pour lesquelles les victimes ne portent pas systématiquement plainte sont nombreuses. Mais on espère que cela va évoluer, comme l'a dit Juliette, on a espoir. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Radio Campus Paris. Merci. Et bien sûr, merci à nos invités du jour. Il est 16h29 sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, il est 17h, vous êtes bien sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Est-ce que vous avez entendu parler du sujet qui fait débat en France ? Eh oui, l'entrée dans la constitution de l'IVG est l'un des nombreux débats qui animent l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais cette action qui pourrait constituer une grande avancée pour les droits des femmes est contestée par les familles politiques et divise en France. Ce sujet est donc l'occasion parfaite pour revenir sur l'actualité de l'IVG dans le monde avec trois envoyées spéciales. Elles sont revenues exprès pour nous faire un point sur l'actualité de leur pays. J'ai donc avec moi aujourd'hui Eve, Shaïma et Jade, respectivement envoyées spéciales aux États-Unis, en Russie et en Jamaïque. Bonjour les filles.
Bonjour.
Cette émission prendra la forme d'un échange / débat entre plusieurs points de vue et modes de vie de trois nations totalement différentes. Si l'émission vous intéresse, installez-vous confortablement, vous écoutez Un Point sur le Monde.
Les studios, c'est vous qui faites l'émission.
La France est au cœur d'un débat sur l'entrée ou non de l'intervention volontaire de grossesse dans la Constitution. Mais aux États-Unis, la question a déjà été abordée et les résultats ne sont pas concluants. Eve, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé récemment aux États-Unis ?
Oui, bien sûr. En effet, on a pu voir ces dernières années un recul de la part des États-Unis au niveau de l'IVG, ce qui peut paraître un peu surprenant alors qu'on observe une hausse du nombre d'interventions. Les États-Unis ont depuis le 24 janvier 2022 retiré l'IVG de la protection constitutionnelle, ce qui est un énorme retour de 50 ans en arrière pour un pays qui avait rendu l'arrêt Roe vs. Wade en 1973 qui a permis l'entrée de l'IVG dans la Constitution.
Très bien, voyons un peu comment tout ça se passe de l'autre côté du Pacifique. Bonjour Shaïma.
Bonjour, et bien malgré les idées qu'on a sur ces pays conservateurs, le Bloc de l'Est a été le premier État à avoir autorisé l'avortement. De son ancien nom, l'URSS, elle a été légalisée en 1920, sous Lénine et elle a été de 1936 à 1955 sous Staline, délégalisée puis a été remise en droit en 1956. C'est sous sa propagande communiste poussant à une égalité homme-femme, incitant les femmes à travailler autant et aller à l'inverse du schéma du foyer américain classique.
Terminons notre tour du monde avec la Jamaïque et notre experte Jade. Comment le sujet est-il abordé dans votre pays ?
En Jamaïque, les lois sur l'avortement sont assez restrictives. La législation jamaïcaine sur l'avortement est principalement régie par le code pénal qui ne prévoit pas d'exception générale pour l'avortement. Les articles du code pénal criminalisent généralement l'avortement, sauf dans des circonstances très limitées. Les circonstances sont les suivantes. Premièrement, lorsque la vie de la femme enceinte est en danger, ou bien lorsque sa santé est gravement menacée par la poursuite de cette grossesse. Cette législation ne prévoit pas de disposition pour des circonstances telles que les grossesses résultant de viol ou d'inceste.
Et quelles sont les conditions en Russie ?
En Russie, l'avortement est pris en charge jusqu'à 12 semaines par l'État sur demande, de 12 à 22 semaines en cas de viol, et jusqu'à la fin de la grossesse s'il y a une mise en danger de la santé de la mère. Tout ça dans le cadre d'un remboursement par la part de l'État.
En parlant de santé, c'est vrai qu'en Jamaïque, les médecins et autres fournisseurs de soins santé qui pratiquent des avortements en dehors des conditions strictement définies par la loi jamaïcaine encourent des risques juridiques et professionnels. Donc ça montre bien l'inaccessibilité de ce pays en termes de loi de l'intervention générale de grossesse.
Pour approfondir notre discussion, Eve, est-ce que vous pouvez nous donner les causes de ce recul dans votre pays ?
C'est à la suite de la nomination de 3 magistrats sous la présidence de Donald Trump que l'équilibre de la Cour suprême est bouleversé par le droit chrétien conservateur qui s'oppose à l'IVG. Les réactions face à ce recul sont nombreuses. Le président actuel des États-Unis, Joe Biden, s'exprime à l'encontre de cette annonce et la qualifie d'erreur tragique. De son côté, Donald Trump a salué la décision de la Cour. À la question de s'il avait un rôle à jouer dans l'annulation de l'arrêt lors d'une interview à Fox News, il a répondu « C'est la décision de Dieu ».
En parlant de président controversé, Vladimir Poutine avait déclaré que l'avortement était essentiel et fondamental à un bon fonctionnement d'un système sociétal. La Russie, la diversité qu'il occupe par sa culture et sa religion s'étend sur toute la longueur du pays. D'un état civil orthodoxe et d'un chef d'état orthodoxe également, l'avortement n'est plus aussi sécurisé qu'avant, notamment quand les pays voisins reviennent sur cette décision. En 2020, la Pologne, un pays catholique membre de l'Union européenne, avait presque interdit l'IVG, réanimant des vagues d'extrême droite conservatrice. Et en parallèle, la même année, en Russie, une jeune fille de 10 ans avait été victime d'un inceste demandant et réclamant un IVG de la part de l'État, ce qui a remis en lumière l'importance de ce droit fondamental.
En parlant de religion, la société jamaïcaine est influencée par des normes sociales et religieuses conservatrices. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la religion Rastafarisme. Alors le rastafarisme, c'est une religion qui se base sur la paix intérieure et l'amour de soi, nécessite avant tout la paix avec l'autre ou l'amour. Les Jamaïcains, qui sont connus pour adopter des principes plutôt laxistes et une mentalité assez ouverte d'esprit, on retrouve finalement, c'est assez contradictoire, puisqu'ils ne tolèrent pas et n'acceptent pas l'intervention volontaire de grossesse.
Merci beaucoup. La législation a changé aux États-Unis, mais est-ce que dans les faits, il y a eu de réelles modifications ?
Alors oui, l'annulation de l'arrêt a en fait provoqué plusieurs modifications dans l'accès à l'IVG pour les femmes, puisque les États sont maintenant libres d'interdire ou non l'IVG. 14 États ont interdit l'IVG depuis 2022, dont le Texas, la Louisiane ou le Mississippi. Dans certains États, il est menacé, comme dans l'Indiana ou le Montana. Le retrait de l'arrêt n'a pas pour autant diminué les interventions. On compte en 2022 511 000 IVG qui ont été pratiquées dans les 36 États qui autorisent encore l'avortement. C'était près de 465 000 avortements en 2020 dans l'ensemble des 50 États où l'avortement était légal. On sait désormais qu'une femme sur trois n'a plus accès à l'IVG.
Merci beaucoup les filles pour votre temps, en espérant que les situations respectives de vos pays s'améliorent ou du moins ne se dégradent pas. C'était Un Point sur le Monde, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas de rester informés sur les actualités du monde. Tout de suite, une pause musicale avec Everything She Wants par Wham.
Bonjour à tous, c'est Noah, il est 15h02 sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, on se retrouve sur votre émission favorite AdoCap et comme tous les mercredis après-midi, on va découvrir de nouveaux métiers. Aujourd'hui, on va parler des métiers au théâtre et donc nous aborderons la pièce tendance de ce moment qui est Gisèle Halimi, une farouche liberté. Cet après-midi, nous accueillerons Julien et Azem du théâtre de Colombes, l'avant-scène.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Je vous laisse donc vous présenter, messieurs.
Alors bonjour, je m'appelle Julien. Je suis régisseur lumière depuis 15 ans. J'ai travaillé avec de grands théâtres comme l'Opéra à Paris et l'Avant-Scène à Colombes.
Salut, moi je m'appelle Azem, j'ai 35 ans et je suis costumier depuis 8 ans.
En quoi consistent les métiers de technicien lumière et donc de costumier ?
Alors le métier de régisseur lumière consiste à chercher les lumières appropriées en fonction des émotions exprimées et de l'histoire pour mettre l'ambiance lumineuse et mieux immerger le spectateur dans la pièce.
D'accord.
Le métier de costumier consiste à créer des costumes pour le théâtre, comme celui de Gisèle Halimi par exemple. Je gère aussi un atelier où il y a des couturiers, des tailleurs, des chapeliers, des boîtiers ou encore des habilleurs. Le costumier est en relation avec les metteurs en scène, des responsables de production tout au long de la pièce. Ce métier permet aussi de créer beaucoup de rencontres.
Ok. Et donc, quelles sont les études pour ces métiers ?
Alors, pour ma part, j'ai appris sur le terrain. À la fin du lycée, j'ai fait beaucoup de stages et c'est là que j'ai acquis toute mon expérience. Je pense que mon collègue sera plus apte à répondre à cette question pour ceux qui en aient des études. Mmh. Mais je sais qu'il existe des formations comme des BTS ou des bacs pro.
Ok.
Effectivement, personnellement, j'ai fait un bac en design de mode où j'ai eu mon diplôme sur 3 ans. Et c'est un diplôme international.
Très bien. Est-ce que la lumière et les costumes ont un impact sur le résultat final de la pièce ?
Alors la lumière a un rôle très important dans le théâtre. Elle permet évidemment aux spectateurs de voir la pièce, mais pas seulement. C'est comme au cinéma, avec les plans ou la musique. Encore une fois, ça immerge mieux le spectateur et ça donne du réalisme. Et enfin, ça accentue les émotions.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'on n'y passe pas forcément en tant que spectateur.
Et oui.
Et donc, oui, bien sûr, parce que les costumes et les habits font vivre la scène avec les lumières où elles contrastent le personnage avec les couleurs de leurs habits.
Très bien. Julien, est-ce que la lumière est utile pour s'orienter dans la pièce ?
Bien sûr, la lumière oriente l'œil du spectateur vers l'action que le metteur en scène veut mettre en avant, pour donner plus ou moins d'importance à un personnage ou une action qui se déroule sur scène.
Et donc, quelles sont les qualités requises pour ces métiers ?
Tout d'abord, je pense qu'il faut savoir travailler en groupe, être à l'écoute, être curieux et surtout aimer son travail, et ne pas avoir de stress.
Alors, selon moi, pour ce métier, il faut non seulement maîtriser les aspects techniques, avoir une certaine gestion du stress parce qu'on travaille en direct pendant que la pièce se déroule.
J'imagine.
De la patience, parce que l'installation prend du temps, et il faut s'y mettre bien avant la représentation. Aussi, une certaine sensibilité artistique pour faire les choix les plus judicieux. Et comme l'a dit Azem, je pense qu'il faut surtout aimer son métier.
Écoutez très bien, messieurs. Merci à vous pour votre intervention, et j'espère, chers auditeurs, que nous vous avons fait découvrir un nouveau métier.
Merci pour l'invitation et merci pour l'accueil.
Merci.
Thank you.